Chapitre 18. Reis attendait dans l'antichambre d'un édifice public de Dahl dans lequel il n'avait jamais mis les pieds quand il était un jeune garnement. À vrai dire, il se sentait quelque peu gêné de se retrouver là, comme s'il y était entré par effraction. Il essaya de nouveau de paraître calme, digne, aimable. Papa lui avait dit que c'était une qualité qu'il portait en lui, mais il n'en avait jamais été conscient. Elle lui était naturelle, et il risquait sans doute de la gâcher en cherchant trop à vouloir paraître ce qu'il était réellement. Il voulut se relaxer un peu tout en surveillant le fonctionnaire installé derrière un ordinateur à l'accueil. L'employé n'était pas un Dalit. C'était en fait Gamboldin Namarti, l'homme qui accompagnait Joranum lors de la rencontre avec son père à laquelle il avait assisté. De temps en temps, Namarti quittait son bureau des yeux pour jeter sur Reich un regard hostile. Ce Namarti ne se laissait pas séduire par son caractère aimable. Reich le voyait bien. Il ne chercha pas à contrer l'hostilité de Namarti par un sourire qui aurait paru trop artificiel. Il se contenta d'attendre. Il était bienvenu jusqu'ici. Si Joranum arrivait, comme il l'escomptait, Reich aurait une chance de lui parler. Joranum apparut effectivement à l'intérieur de l'édifice avec son sourire public chaleureux et confiant. La main de Namarti se leva et Joranum l'arrêta. Ils s'entretinrent à voix basse tandis que Reich les regardait avec attention en essayant en vain d'adopter un air dégagé. Namarti était manifestement opposé à la rencontre, ce qui mettait Reich sur des charbons ardents. Puis Joranum se retourna vers Reich, sourit, écarta Namarti. Reich comprit alors que si Namarti était le cerveau de l'équipe, c'était Joranum qui possédait le charisme. Joranum s'avança vers lui et lui tendit une main potelée, légèrement moite.
« Voyez-vous ça? Le jeune fils du professeur Selton. Comment allez-vous? »
« Très bien, merci monsieur. »
« J'ai cru comprendre que vous aviez eu certaines difficultés pour venir ici. »
Pas trop, non, monsieur.
Vous nous apportez un message de votre père, je parie. J'espère qu'il aura révisé sa décision et décidé de se joindre à ma grande croisade.
Je ne pense pas, monsieur.
Joranum fronça légèrement les sourcils.
Êtes-vous venu à son insu?
Pas du tout, monsieur. Il m'a envoyé ici.
Je vois. Avez-vous faim, mon garçon?
Pas pour le moment, monsieur.
Dans ce cas, ça ne vous gêne pas si je mange? Je n'ai guère de temps pour les petits conforts de l'existence,
dit-il avec son grand sourire. Je n'y vois pas d'inconvénient, monsieur.
Ensemble, ils se dirigèrent vers une table et s'assirent. Joranum déballa un sandwich et mordit dedans. La voix légèrement étouffée, il reprit.
Alors, pourquoi vous a-t-il envoyé, fils?
Reich haussa les épaules. Je crois qu'il me pensait en mesure de découvrir quelque chose qu'il pourrait exploiter contre vous. Il est cœur et âme avec le premier ministre d'Emerzel.
Et pas vous?
Non, monsieur. Je suis un Dalit.
Je sais que vous l'êtes, monsieur Selton. Mais qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que je suis opprimé. Donc je suis dans votre camp et désire vous aider. Bien sûr, j'aimerais mieux que mon père ne le sache pas.
Il n'y a aucune raison qu'il le sache. Comment vous proposez-vous de m'aider?
Il jeta un rapide coup d'œil à Namarti, les bras croisés sur son bureau, l'expression de plus en plus maussade.
Connaissez-vous quoi que ce soit à la psychohistoire?
Non, monsieur, mon père ne m'en parle pas. Et s'il le faisait, je n'y pigerais rien. Je crois qu'il ne débouche nulle part avec ça.
En êtes-vous sûr?
Évidemment que j'en suis sûr. Il y a ce gars-là, Hugo Amaril, un Dalit également, qui en cause parfois. Je sais qu'il ne se passe rien.
Ah. Pourrais-je voir Hugo Amaril un jour, à votre avis?
Je ne pense pas. Il n'est pas trop pour Demerzel, mais il ne jure que par mon père. Il ne le trahirait pas.
Mais vous si.
Reich parut embêté et grommela sombrement.
Je suis un Dalit. Joranum se racla la gorge.
« Alors, laissez-moi vous reposer la question. Comment vous proposez-vous de m'aider, jeune homme ?»«
J'ai quelque chose à vous révéler que vous ne croirez peut-être pas. »«
Vraiment ?»« Dites toujours. » »« Si je ne le crois pas, je vous préviendrai. » »«
C'est au sujet du Premier ministre, Eto Demerzel. » »«
Eh bien ?»
Reich regarda autour de lui, hésitant. « Quelqu'un peut-il m'entendre ?»«
Il n'y a que Namarti et moi. »«
Très bien. Alors voilà. Ce bonhomme n'est pas un humain. C'est un robot. »«
Quoi ?»
explosa Joranum. Reich crut bon d'expliquer. « Un robot est un homme mécanique, monsieur. Il n'est pas humain, c'est une machine. » Namarti intervint avec fougue.
« Jojo, n'en croyez rien, c'est ridicule !»
Mais Joranum leva la main dans un geste impérieux, ses yeux étincelaient.
« Pourquoi dites-vous cela ?»«
Mon père est allé une fois à Mycogène. Il m'en a longuement parlé. À Mycogène, on discute souvent des robots. »«
Oui, je sais. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. » »«
Les Mycogéniens croient que jadis, les robots étaient très répandus parmi leurs ancêtres, mais qu'ils ont été éliminés. » Namarti plissa les paupières.
« Qu'est-ce qui vous fait penser que Demerzel est un robot. Du peu que je sache de ces faréboles, les robots sont faits de métal, non ?»«
C'est exact, » dit Reich avec conviction. « Mais d'après ce que j'ai entendu, il existe quelques robots qui ressemblent tout à fait à des êtres humains et qui vivent éternellement. » Namarti secoua violemment la tête.
« Légende, légende ridicule, Jojo, pourquoi écoutons-nous de telles... »
Mais Joranum le coupa aussitôt.
« Non, j'ai dit. Je veux écouter. J'ai entendu ces légendes, moi aussi.
« Mais c'est une absurdité, Jojo. Ne sois pas si pressé de parler d'absurdité. Et même si tu étais dans le vrai, des gens vivent et meurent pour des raisons absurdes. Ce n'est pas tant la réalité qui importe que ce que les gens croient. Dites-moi, jeune homme, légende mise à part, qu'est-ce qui vous fait penser que Demerzel est un robot? Supposons que les robots existent. Qu'y a-t-il donc chez Demerzel ? Qui vous pousse à affirmer qu'il est bien un robot? Vous l'a-t-il dit lui-même?
Non, monsieur.
Votre père vous l'a-t-il dit?
Demanda Joranum.
Non, monsieur.
C'est juste une idée personnelle.
Mais j'en suis convaincu.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet d'être si sûr?
Quelque chose dans son apparence. Il ne change pas, il ne vieillit pas, il ne trahit pas d'émotion. Quelque chose en lui donne vraiment l'impression qu'il est fait de métal.
Joranum se cala dans son fauteuil et fixa Reich un long moment. On aurait presque pu entendre bourdonner ses pensées. Finalement, il reprit.
« Supposons donc, jeune homme, qu'il s'agisse bien d'un robot. » Qu'est-ce que cela peut vous faire? Cela vous concerne-t-il?
Bien sûr que cela me concerne, dit Reich. Je suis un être humain. Je ne veux pas d'un robot pour diriger l'Empire.
Joranum se tourna vers Namarti avec un signe de vive approbation.
Tu entends ça, Gédé? Je suis un être humain. Je ne veux pas d'un robot pour diriger l'Empire. Passe-le à l'Holovision. Et fais-lui répéter ça. Je veux entendre cette phrase martelée à l'envi jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans la cervelle de tous les citoyens de Trentor.
Hé ! Dit Reich, reprenant enfin son souffle. Je ne peux pas dire ça à l'Holovision. Mon père découvrirait que...
Oui, évidemment.
Se hâta de corriger Joranum.
Nous ne pouvons nous le permettre. Nous citerons simplement vos paroles.
Nous trouverons bien un autre Dalit, un représentant de chacun des secteurs, chacun dans son propre dialecte, mais toujours avec le même message. Je ne veux pas d'un robot pour diriger l'Empire.
Et qu'arriverait-il,
intervint Namarti, si d'aventure Demerzel prouve qu'il n'est pas un robot?
Vraiment?
Dit Joranum. Et comment en fera-t-il?
C'est impossible. Psychologiquement impossible. Quoi? Le grand Demerzel, le pouvoir caché derrière le trône, l'homme qui tire les ficelles de Cléon Ier depuis tant d'années et celle du père de Cléon avant lui, le vois-tu descendre de son piédestal pour gémir devant le public qu'il est vraiment un être humain? Ce serait presque aussi destructeur pour lui que d'avouer qu'il est un robot. GD, nous avons la possibilité d'acculer l'ennemi dans une impasse. Et nous la devons à ce jeune homme ici présent.
Reich rougit.
Votre nom est Reich, c'est bien cela? Une fois notre parti placé en bonne position, nous ne serons pas ingrats. Dahl sera bien traité et vous aurez un bon poste à nos côtés. Vous deviendrez chef du secteur de Dahl, Reich, et vous ne regretterez pas votre geste.
Le regrettez-vous maintenant?
Je vous jure que non, dit Reich avec ferveur. Dans ce cas, nous allons veiller à vous faire retrouver votre père. Vous lui ferez savoir que nous ne lui voulons aucun mal, que nous le tenons en haute estime. Vous pouvez lui exposer votre découverte de la manière qui vous plaira, et si jamais vous apprenez autre chose qui vous semble pouvoir nous être utile, sur la psychohistoire en particulier, prévenez-nous.
Comptez sur moi. Mais êtes-vous sérieux quand vous dites que vous veillerez à ce que Dahl en retire quelque avantage?
Tout à fait. L'égalité des secteurs, mon garçon, l'égalité des mondes. Nous aurons un nouvel empire débarrassé de l'infamie des privilèges et de l'inégalité.
Et Reich d'acquiescer avec vigueur.
C'est mon plus cher désir.